le 16. Culture.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on a au bout du fil Alain Chevarier, réalisateur, monteur et illustrateur pour parler de la bande dessinée Géant au pied d'argile qui va sortir, qui est sortie hier en fait. Bonjour Alain, ça va bien?
Ça va bien et toi?
Oui, ça va super bien, merci. Donc c'est ça, parlons un peu de cette bande dessinée-là que tu as co-écrite en fait avec Mark McGuire. J'aimerais t'entendre un peu là, sur la genèse de ce projet-là. Comment c'est né cette bande dessinée-là?
Ben, au départ, c'est à la rencontre de Mark, qui est quand même un gars singulier qui mesure 6 pieds 10, ça se remarque de loin.
Oui.
Et on était dans un gymnase d'activité parents-enfants. Puis quand j'ai vu au loin un gars très grand qui savait manier un ballon de basketball et qui a lancé, son lancer est superbe. Fait que je suis allé le voir pour lui demander s'il voulait jouer dans mon équipe. Parce que je joue au basket. Ce qui est écrit au début, c'est, comment dire, c'est de l'autofiction, mais la partie basketball est vraie. Mark a joué aux États-Unis au niveau NCAA à l'école universitaire Davidson.
Okay.
Et puis, moi, j'ai joué et coaché toute ma vie. Puis, ça nous a amené à jaser sur le sport, être parent. Lui, d'ailleurs, c'est vrai, il a toujours dit non. J'ai toujours demandé, j'ai demandé, je pense, pendant un an de venir jouer avec moi. Il a refusé catégoriquement à chaque fois. Et finalement, c'est ça. La conversation a rapidement dévié vers être père, être parent. C'est quoi? Puis c'est quoi quand on a des parents, dans mon cas, c'est un grand-parent qui ont fait la guerre.
OK.
Alors, c'est ça le point de départ.
Et puis, justement, cette bande dessinée-là suit justement deux pères, donc Pat et Mathieu. C'est un récit qui aborde quand même plusieurs thématiques. Là, tu disais que c'était un peu biographique, autobiographique. Qu'est-ce que, au niveau de la parentalité, t'a attiré dans ce projet-là? Qu'est-ce que t'as voulu plus approfondir dans la parentalité avec ce projet-là?
Bien, tous les deux, on est papa de deux enfants qui s'accomplissent dans la vie, mais qui ont aussi des conjointes qui s'accomplissent très, très bien, parfois même mieux que nous dans la vie. Puis, moi, personnellement, ma situation était particulière. Quand ma fille est née, je sortais de l'école de cinéma et j'ai passé les deux premières années de sa vie à la maison avec elle. Un des contrats que j'ai eu, c'était de la filmer, elle, qui grandissait pour un documentaire d'André Melançon, de feu André Melançon.
OK.
Fait que je prenais les contrats, en fait, quand les gens m'appelaient, mais je faisais zéro représentation, je m'occupais de ma fille.
Mm-hmm.
Puis, ça m'a amené à plein d'interrogations sur c'est quoi être un papa progressiste de nos jours, pourquoi est-ce que je ressens toutes sortes de pressions et externes et internes à me pogner une job et à ramener le bacon et puis à faire mon rôle stéréotypique paternel que tous les pères ont eu avant nous.
Mm-hmm.
Puis cette pression-là était vraiment très forte. Puis en parlant avec Mark, lui, il y avait le même genre de questions par rapport à c'est quoi être un père quand on a peur de se définir à contrario par rapport à ceux qui sont venus avant nous. Puis qu'on n'a pas de repères.
Mm-hmm.
Il n'y a pas de repères en ce moment. Tu sais, l'homme rose, non, ça marche pas. Le stéréotype, le vieux stéréotype de papa a raison, ça marche pas non plus.
Mm-hmm.
C'est plus subtil que ça, c'est plus complexe. En même temps, il y a plein de choses taboues là-dedans. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec notre colère si on la met en boîte tout le temps, à m'emmener sa tête?
Mm-hmm.
Puis ça vient d'où cette colère-là? On avait plein de questions, puis en général, quand un sujet amène beaucoup de questions, c'est riche. Ça,
ouais.
Ça aide à trouver des anecdotes, puis que ça devienne une histoire.
Ça parle de termes quand même assez profonds. Tu le mentionnais un peu, outre la parentalité, tu sais, un peu le concept de masculinité, la rage même. Sur quel ton est-ce que vous abordez ces thématiques-là? Est-ce que vous y allez quand même d'un ton tragicomique ou si vraiment, tu sais, c'est vraiment une BD d'adulte sérieuse et même limite, pas didactique, mais en tout cas pédagogique pour en apprendre un peu plus sur ces traits de personnalité-là?
Ben, c'est sûr que Mark, lui, il est prof de cégep, fait que il y a un côté pédagogique caché, mais c'est vraiment pas ça qui drive le livre. C'est
okay.
tragicomédie, je pense, c'est ce qui serait le plus proche, mais on a vraiment essayé de se coller sur c'est quoi la vie au quotidien dans une famille. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui est différent quand c'est le père qui est tout seul avec les enfants? Qu'est-ce qui est particulier que les mères ne verront pas nécessairement? Mm-hmm. Quels sont les changements dans le comportement? Parce que moi, ça arrive souvent encore. C'est vrai que il y a des trucs là-dedans qui sont vrais. Je vous dirais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Faut garder une part de mystère. Mais c'est vrai que ma blonde fait de la danse contemporaine puis qu'elle est souvent partie en tournée. Puis comment dire, mon comportement comme parent est pas le même quand t'es pas là que quand t'es là. Quand t'es là, je suis heureux de domper du travail sur elle et elle sur moi. Quand t'es tout seul, t'es responsable de toute ta baraque. Fait que l'attitude n'est pas la même, puis la solitude fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui ressortent pas nécessairement quand mm-hmm. t'es tout le temps à deux. Fait qu'on a vraiment essayé de montrer à la fois des choses rigolotes du quotidien, parce que c'est ça aussi la vie, puis de façon un peu subversive aussi pour amener le lecteur, un lecteur sans défense qui va comme ça au travers des pages, puis tout à coup qui tombe sur quelque chose de très sérieux, de plus profond, en tout cas qui est plus confrontant en termes des questionnements des protagonistes puis de ce qui leur arrive. Puis ça permet de moduler aussi, ça donne un rythme à l'histoire qui ressemble beaucoup à la vie. C'était ça le but.
Mm-hmm. Oui, au niveau de l'illustration là, dans la bande dessinée, qui est quand même une partie importante, je pense, du projet, ouais. J'ai entrevu ouais. la couverture, ça semblait un petit peu à de l'aquarelle. Est-ce que c'est à ça qu'on peut s'attendre dans l'entièreté de la BD? Puis aussi, est-ce que ça a été un choix ou soutenir un peu le propos ou c'est plus votre style personnel?
Mais graphiquement, la page couverture, on l'a fait surtout pour attirer les gens, parce que c'est pas du tout comme ça à l'intérieur.
OK. Okay.
J'ai fait la page couverture en partie avec un crayonné au crayon de mine, okay. comme l'intérieur du livre. L'intérieur est tout au crayon de mine. Et j'ai utilisé de l'aquarelle parce que je voulais que ce soit riche en couleurs, parce que je voulais que la pochette montre le ton du livre.
OK.
Et puis c'est un ton qui est très coloré. Il se passe beaucoup. Autant on a des moments de crise intense, autant à un moment donné, il y a une toilette bouchée, il y a un enfant qui a une gastro qui vomit partout. sans faire dans le pipi caca nécessairement, là, mais il y a un côté très rigolo des problèmes de tous les jours. Puis c'est surtout la réaction des gens autour qui est intéressante. Pat, le personnage principal, quand la toilette est bouchée par sa fille, il capote sa vie. Là. C'est vraiment la fin du monde. Alors mm-hmm. que l'autre papa, qui est plus habitué à toutes sortes de crises, est tout à fait relax. Fait que c'est ces contrastes-là qui sont chouettes. Et moi, j'ai choisi de faire la bande dessinée, pour revenir à la technique, au crayon mine, parce que j'ai essayé toutes sortes de techniques. Je savais que j'allais avoir beaucoup de pages à remplir. Je voulais que ce soit justement nuancé. Je voulais que le dessin soit très nuancé. C'est très doux. Mon approche, je l'ai, sans l'avoir calqué, je me suis beaucoup inspiré d'une illustratrice qui s'appelle Isabelle Arsenault, qui travaille beaucoup à la pastèque. Et puis c'est en lisant ses livres, Jane le Renard et moi et Louis parmi les spectres, pour la plugger, qui sont excellents, c'est ce qui m'a donné envie de recommencer à dessiner. Okay. Parce que je fais de la réalisation aussi dans la vie pour gagner des sous, puis mm-hmm. mais ça, c'est ce qui m'a ramené. Puis c'était vraiment un souci de donner un ton qui est à la fois expressionniste et nuancé et doux pour qu'on sente que ça représente bien la famille. Mm-hmm.
Vous avez travaillé sur la bande dessinée René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur une bande dessinée un peu plus sur un personnage historique et politique du Québec?
C'est le scénariste, principalement. En fait, Marc Tessier, c'est le scénariste de René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Son objectif avec René Lévesque, c'était d'aller chercher des illustrateurs qui, en bon français, qui citaient, qui étaient capables d'amener quelque chose avec leurs traits au chapitre qu'ils devaient illustrer. Okay. Et Marc, c'est l'ami d'un ami. En fait, je me suis rendu compte qu'on avait une bonne gang de gens amis en commun, mais c'était aussi l'ami d'un ami de Mark McGuire. Okay. Et c'est lui qui l'a contacté pour lui dire, regarde, on part une bande dessinée. Ça fait 7 ans qu'on travaille dessus. C'était un long labeur. Puis il y a environ 5 ans, je pense, Marc Tessier est arrivé. Puis quand il a vu les dessins que je faisais pour la guerre du Vietnam, pour illustrer les mésaventures du père de Pat, c'est là qu'il a vu que tu serais parfait pour illustrer la guerre de Corée dans l'histoire de René Lévesque. Ça te tente-tu? Puis ensuite, ils m'ont demandé de faire la couverture du livre. Alors, ça a été un projet extrêmement porteur pour moi à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis on restait dans le même thème aussi, le thème de la guerre.
Ouais. Tu l'as mentionné, là, tu es également réalisateur. Ben, tu sais, la BD puis la réalisation, au final, c'est deux médiums visuels, ou en tout cas, où c'est l'image qui est davantage mise de l'avant. Là. Même une BD, c'est quasiment des storyboards. Mais justement, comment tu approches un projet où tu assures la réalisation puis un projet où tu assures la bande dessinée? Est-ce que tu as quand même... J'imagine qu'il y a des parallèles à tisser. Il y a toujours un peu cette idée de chaque case ou chaque plan doit faire avancer l'histoire. Là. Comment tu approches chacun des projets?
Au niveau de l'histoire, ça se ressemble beaucoup. Tout ce que j'ai appris en fait en réalisation, je peux m'en servir en bande dessinée. C'est aussi simple que c'est l'histoire d'un gars, d'une fille, il lui arrive telle affaire, puis à la fin il arrive ça. On se sert de trucs de base. Il y a plein de trucs de base en réalisation qui sont complètement utilisables. En fait, tant au niveau de l'histoire que de la technique, moi je dessine beaucoup en utilisant la lumière comme base. Et je me sers des ombres de façon très expressionniste. C'est-à-dire que quand il y a une surface noire, je varge un peu sur le papier, pour le bon français, ouais. pour donner l'impression que ce noir-là donne. Ou j'y vais doucement, dépendant de la situation. Mais il y a quelque chose dans... C'est plus qu'un storyboard, une bande dessinée, parce que il y a quelque chose qui se passe entre les images d'une BD, entre deux images qu'on peut un petit peu reproduire entre deux plans différents à la télé ou au cinéma. Il y a aussi un parallèle qu'on peut faire avec... On a deux récits parallèles. Un qui est raconté par les mots, les dialogues, et l'autre qui est raconté par l'image. Mm-hmm. Puis le but, c'est qu'en les juxtaposant, soit que ça crée des contrastes. En général, on dit jamais ce qu'on pense vraiment, puis l'image peut nous trahir à ce moment-là, puis créer une tension entre ce qui se dit puis ce qu'on voit. Puis c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a un troisième sens qui va ressortir de là. Vous me dites d'arrêter hein, quand je m'en vais trop dans l'ésotérique.
Mais, non, ça va.
Mais c'est ça, c'est vraiment là qu'on donne du sens au médium. Sinon, il faudrait juste faire des romans ou des films muets, ce qui est très bien aussi. Mais l'avantage qu'on a et au cinéma et en bande dessinée, c'est qu'on peut mettre ces deux choses-là, l'image et le parler, ce qui est dit, ce qui est écrit, en contraste, puis pour créer du sens. Puis ça, c'est un sport qui est vraiment, vraiment chouette.
Oui, c'est très intéressant. Alain, en terminant, est-ce que tu as d'autres projets qui t'attendent prochainement ou si là, tu vas laisser ce projet-là vivre sa vie puis il y a d'autres choses qui t'occupent? Là, qu'est-ce qui t'attend justement dans les prochains mois?
Là, je dois entraîner une équipe de soccer. Là, c'est ma fille. Non, j'ai parti d'autres projets. En fait, je me suis dépêché à partir des projets avant que le livre sorte pour ne pas me retrouver pogné que si ça marche, qu'il y ait beaucoup de pression pour que l'autre soit bon. Ou si ça marche pas, il y a beaucoup de pression pour que l'autre soit bon.
Ouais.
Fait, pour enlever de la pression, j'ai parti un nouveau projet. Ce sera l'histoire d'une jeune adolescente qui a quitté son nid familial, qui s'est envoyée chez son grand-père parce qu'elle s'est battue avec sa mère.
Bon, mais...
Et voilà, ça c'est dans la gaieté tout le
ouais,
monde.
Ouais, c'est
ça. il y a toujours... En fait, dans mes histoires, c'est tout le temps des comédies avec un côté sombre, mais c'est toujours quand même rempli d'optimisme.
Donc, on rappelle à nos auditeurs et auditrices, Géant au pied d'argile de Moelle Graphique, c'est paru hier, en fait. C'est disponible dans toutes les plus grandes librairies. Alain, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
Ça fait extrêmement plaisir.